Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui, ce dernier jour du mois d'octobre, veille de Toussaint et jour d'Halloween pour celles et ceux qui vont aller chercher des bonbons à gauche, à droite. Faites attention quand même aux caries et aux dents. Une belle émission qui nous attend ce soir, puisqu'on va parler bien sûr de la Jupiler Pro League, mais également de la Coupe d'Europe, puisque c'est cette semaine que se terminent les phases de groupe. Et donc on va débriefer et briefer tout ça pour que vous soyez au courant de tout ce qui va se passer cette semaine et de tout ce qui s'est passé ce week-end. Ce soir, à mes côtés, il est le fondateur de l'agence de marketing sportif Sportimize. Il va encore une fois nous faire part de tout un tas d'informations très intéressantes qui tiennent au business, ou pas forcément, enfin en tout cas au business du football plutôt.
L'envers du décor.
Voilà, il va nous parler de tout ça. Vous l'avez reconnu, Alexandre Demeter. Salut Alex, comment tu vas ?
Salut Sam, super, on est sans déguisement, tout va bien.
Ouais, on n'est pas encore déguisé.
Mais prêt à faire peur.
Oui, ça c'est. Bah on va parler de certains joueurs qui ont fait peur ce week-end. Alors parfois il n'est pas en studio avec nous, mais même quand il n'est pas en studio, il est quand même là, il sort par la porte, il rentre par la fenêtre, monsieur Didier Cohn. Voilà, on pouvait pas se passer de l'hymne du champion. Salut Didier, comment vas-tu ?
Salut Sam, salut Alex, bah, ravi d'être avec vous, hein, bien sûr, et puis voilà, une prochaine fois j'espère être là en chair et en os.
Eh bien écoute, on espère aussi que tu pourras être des nôtres la prochaine fois. On va démarrer cette émission, mais d'abord je vous donne le programme. Le programme ce soir, on commence par la Pro League, bien sûr. Une journée qui a été intéressante, il n'y a pas eu de changements fondamentaux, pas de bouleversements, mais enfin il y a des choses qui se mettent en place et des Alex, justement, on parlera justement de ce que tu sentais au début de saison qui semble se confirmer avec un des clubs qui est en tête du championnat. On parlera ensuite, bien sûr, de l'épilogue des Coupes d'Europe, des trois Coupes d'Europe, et on s'intéressera essentiellement au parcours des clubs belges et des clubs israéliens. Et entre les deux, on parlera donc un peu de l'envers du décor avec toi, Alex, dans ta chronique un petit peu Sportimize, au cours de laquelle on parlera donc de cet envers du décor. Écoutez, je crois que tout est dit. Et voilà, tout est dit. On peut démarrer le coup d'envoi. Et on va commencer bien sûr par la 15e journée de Pro League. La 15e journée de Pro League qui, comme je le disais, était sans réelle surprise au niveau des résultats et s'inscrit plutôt dans la continuité de la journée précédente. Genk, le leader, l'a emporté 3-1 face à Malines. Le Dauphin, l'Antwerp, a quant à lui perdu 1-0 à Charleroi, confirmant donc ce que tu disais, Alex, dès notre première émission, à savoir que l'Antwerp ne tiendrait pas le rythme, en tout cas n'avait pas une tête de favori au titre, malgré le recrutement assez ronflant qui a été fait.
C'est une impression, je n'ai pas la science infuse, mais je pensais que ça allait dans cette direction, et pour l'instant, effectivement, les pronostics, aussi bien en haut qu'en bas, sont en ma faveur, mais la saison est encore loin d'être finie.
C'est vrai. Le Genk l'a emporté, l'Antwerp a perdu. Cette défaite de l'Antwerp permet à Genk de compter désormais 7 points d'avance en tête du championnat. Ensuite, les clubs qui étaient classés 3, 4 et 5, à savoir le Club de Bruges, l'Union et le Standard, l'ont emporté. Le train continue d'avancer, et sauf pour l'Antwerp qui se fait distancer devant et rattrapé derrière. Et à noter quand même la victoire d'Anderlecht 4-2 face à Eupen. Une victoire dont on va parler, qui est jolie sur le papier. Il y a quand même pas mal de choses à en dire. Je vous propose... Oui.
Il y a quand même quelque chose. On n'en parle pas, mais Genk est champion d'automne.
Genk est d'ores et déjà champion d'automne. Exact.
C'est une indication.
Ouais. Bah écoutez, c'est une... C'est une info que j'avais pas mis sur le devant de mes fiches, mais effectivement, Genk champion d'automne, bravo. On sait que ça ne rapporte pas grand-chose au final, mais c'est bien.
La preuve, l'Union l'était l'année passée, effectivement, ça ne rapportait rien, mais là, on en parlait beaucoup, et je trouve cette année, Genk fait son petit chemin, ils ont 40 points, ouais, non, ce qui est énorme en 15 matchs. Et il y a une série en cours qui est phénoménale, et ok, certes, l'Antwerp et Bruges perdent des plumes derrière, mais Genk parvient à gagner ses matchs, même dans la difficulté, même dans la douleur.
Oui.
Sans oublier que leur premier match, ils ont perdu 3 points à Bruges, qui n'était pas mérité. Et donc, par rapport à ça, eh bien, ils ont juste, on va dire, avec 3 points en plus, parce qu'ils méritaient de gagner ce match, ça aurait été 43 sur 45, ce qui aurait été juste exceptionnel.
C'est vrai. Je vous propose qu'on parle, on commence par le club de Bruges. Tout simplement, c'est le champion en titre, c'est l'équipe qui est sur le devant de la scène, hein, parce que leur parcours européen est quand même formidable cette saison. Un match, alors là, drôle de match, hein, un drôle de match, le score 4-2 pour Bruges. Vu comme ça, on pourrait se dire que bon, bah, ils ont fait, c'est un match normal de week-end d'après Coupe d'Europe. On sait que les week-ends d'après Coupe d'Europe pompent pas mal d'énergie, mais le scénario du match en lui-même a été, il laisse à réfléchir sur ce que va devoir faire ou va devoir corriger le club de Bruges à l'avenir.
On verra ce que Didier en pense, mais moi je pense que la défense a déjà un sérieux problème. Tu encaisses 2 buts face à Ostende, tu en prends 4 face à Porto. Les semaines précédentes n'étaient vraiment pas exceptionnelles non plus. Il commence à y avoir un problème, au-delà du problème que les médias créent avec les pénaltys. Il y a cet aspect défensif qui est pour moi le premier point sur le papier à corriger pour Bruges avant la Coupe du Monde et certainement après.
Alors, Didier, tu me diras ce que tu en penses. On va pas jeter la pierre à Boyata parce qu'il le mérite pas, et que c'est juste un match. Mais disons que pour ce match-là, on peut dire que Boyata est passé complètement au travers. Il fait une passe. On ne sait pas comment ce qui lui est passé par la tête, une passe. Habituellement, on dit dans les écoles de foot, on remet pas une passe au centre du terrain, au milieu. Il a mis une passe pour personne, qui a été interceptée et but. Enfin, sa passe était loupée en tout cas.
La passe est loupée, mais après il y a d'autres personnes qui courent entre, etc. On ne remet pas la balle au milieu, mais il y a 65 ouais. transversales qui se font par match. Il a essayé, il a raté, mais je pense que ce qu'on essaie d'accabler à Boyata, c'est symptomatique pour toute la défense du club de Bruges.
C'est ça.
Contre Porto, c'était Brandon Mekele qui a mangé dans les médias le lendemain matin. Aujourd'hui, c'est Boyata. Ce sera peut-être Odoi la semaine prochaine ou demain, ou après-demain plutôt. Mais c'est symptomatique pour le problème général, j'ai l'impression. Et c'est dommage, à ce stade-ci, de parler d'un problème à Bruges, vu le retard au classement. Vu la défense un peu fébrile, même si Mignolet derrière sauve énormément les meubles, et on l'a déjà vu aussi les dernières semaines. Mais vu les résultats en Champions League, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt aussi, j'ai l'impression.
Didier, qu'est-ce que tu en penses, toi, de...
Je suis assez raccord avec l'avis d'Alex et le tien, dans le sens où, effectivement, c'est difficile de ne pas dire que le bât blesse en défense à Bruges. En revanche, je serais moins sévère avec Boyata, et je n'ai rien inventé, hein. Je pense qu'il y a pas mal de commentateurs qui ont dit la même chose. Il a eu une absence de 6 minutes, parce que c'est en 6 minutes ou en 10 minutes à tout péter qu'il a fait sa mauvaise passe. Et puis après, comme le disait le commentateur, je ne sais plus lequel, sur la chaîne que je regardais, il a voulu il a un petit peu surjoué pour réparer son erreur, et il a commis la faute qui était tout à fait évitable, qui amène le pénalty et le 2-2. En revanche, il faut aussi, Alex, et je parle sous ton contrôle, ne pas oublier que la défense, il n'y avait pas Silla, il n'y avait pas Mata. Ça fait quand même deux pierres angulaires de cette défense. C'est déjà une première chose. Boyata, pour moi, pour le reste, il ne faut pas oublier qu'il revient de blessure à son rythme. que d'après Karl Hufkens, d'après match, et même dans la presse, il en a parlé aujourd'hui aussi, il disait que Boyata, au niveau du vestiaire, c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel, qui est bosseur, etc. Donc je pense pas que ce soit de l'arrogance dans son chef, loin s'en faut. Je pense qu'il nous a déjà bien dépanné et que c'était un très bon défenseur. C'est quand même un diable rouge et n'est pas diable rouge qui veut. Quand tu vois, parfois, je prends un point de comparaison, Vertonghen ne brille pas de mille feux à Anderlecht, il a aussi certaines absences qui coûtent peut-être moins cher. Ou peut-être qu'on se dit, bon, mais qu'Anderlecht, comme rien ne va et que ce n'est pas un prétendant.
Mais voilà, peut-être.
On laisse passer. Mais bon, ce sont des joueurs d'expérience qui ont probablement, leur moment d'absence. Ça n'excuse rien, ça explique, en fait. Et puis, moi, j'ai hâte que Mata revienne. Et là où tu marques un point, Alex, c'est quand tu parlais de deuil. Moi, je l'ai trouvé limite carbo contre Porto. On sent que ce gars a vraiment beaucoup, beaucoup de matchs dans les jambes et qu'il n'est pas de première jeunesse non plus. Mais par contre, il est extrêmement utile parce qu'il compense par son placement et une relance relativement correcte, pour ne pas dire très correcte. Donc moi, je ne m'inquiète pas plus que ça, mais c'est vrai que l'arbre qui cache la forêt, ben c'était Mignolet. Jusqu'à présent, il nous a, chaque fois que la défense était défaillante, il a pu la suppléer, et de manière plus que bien. Ouais. Là, pour le coup, effectivement, il ne peut rien sur les buts qu'il prend. J'ai envie de dire que Bruges ne peut être battu que par lui-même sur les deux derniers matchs. Je ne parle pas de Porto, mais les deux derniers matchs de championnat, aussi bien à l'Union que la semaine dernière, que contre Ostend. Bon, Ostend n'étant pas l'Union, ils ont pu encore réappuyer sur le champignon et gagner ce match. Tandis que contre l'Union, alors il y en a qui parlent d'un petit peu de suffisance ou d'arrogance. Je pense pas que ce soit dans l'ADN du club de Bruges d'être comme ça, mais enfin, pourquoi pas.
C'est pas dans l'ADN, mais malheureusement, c'est fort présent.
Oui, pour le moment, dans le chef peut-être de certains, mais moi je les vois tous bosser. Moi, un mec qui me... il n'est pas en défense, mais en même temps, c'est le premier défenseur. Vu le terrain qui couvre ces jutes-là, je trouve juste exceptionnel d'abnégation, parce que notamment contre Ostend, il a pas vu beaucoup de cuir sur le match, puisque Ostend venait vraiment vu pour défendre, et donc c'était un peu compliqué pour lui, mais... quel bosseur, et quand tu vois le deuxième but qu'il met, la course qu'il fait à haute intensité, on ne peut pas parler vraiment d'arrogance dans son chef. Enfin, c'est mon avis, et Karl Hufkens est tout sauf arrogant, comme pouvait l'être avant lui l'entraîneur qui est parti à l'Ajax, le Néerlandais. Tout à fait, il y avait une espèce de suffisance même dans son coaching, je trouvais. Karl Hufkens est toujours dans la retenue, je trouve, et dans l'humilité. Et je pense qu'il transmet plutôt bien ça à son groupe.
Moi, je pense, pour avoir vu le match, qu'il y a eu aussi un manque de réussite, parce qu'ils mènent 2-0, ils se font rattraper 2-2, mais avant même la mi-temps, ils ont... plein de possibilités de marquer un troisième. Hans Van Aken, en deuxième mi-temps, je crois, met une frappe qui touche l'extérieur du poteau. Donc, donc Jugla, le pénalty qui loupe, si les choses tournent plutôt bien, on ne parle pas aujourd'hui l'erreur de Boyata, parce que le match est plié avant. Bon, mais c'est vrai que ça peut être une sonnette d'alarme, en tout cas pour Bruges, de se dire qu'ils peuvent avoir des absences, ou en tout cas qu'il faut qu'ils soient... concentrer tout le temps et ne pas laisser l'adversaire se reprendre confiance.
Mmh. Ouais, après, je rejoins Didier. Quand tu vois Ferran Jutglà, la manière où son jeu, la manière dont il s'est imposé dans l'effectif, même dans le 11 de base, effectivement, il ne témoigne d'aucune arrogance, d'aucune suffisance. Et c'est la même chose pour Kasper Nielsen, par exemple. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un recrutement axé aussi sur ses valeurs, sur ce profil cognitif de joueur. Mais force est de constater qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont en dessous de leur niveau physique, mais aussi mental. Et c'est là où le bas blesse face à Porto, qu'on baisse les bras. C'est là où le bas blesse face à Ostend. C'est là où le bas blesse à l'Union, Standard. Et je trouve que ça commence à faire beaucoup.
Est-ce que vous pensez pas, vous deux qui êtes des fins connaisseurs du club de Bruges, que c'est dans ces moments-là qu'on ressent les absences de Ritz ou de Vormer, qui ont été des...
Les deux matins.
Et de Mata aussi, mais c'est vrai qu'au milieu de terrain, ça a une... enfin, et de Mata aussi, mais c'est vrai qu'il y a eu un bon recrutement, mais il y a peut-être pas, ils n'ont pas, et c'est normal encore, le bagage, l'expérience de ces Ritz et Vormer, qui peuvent...
Très honnêtement, je partage ton avis pour ce qui concerne Mats Rits, parce que c'est vraiment le roquet, c'est le roi de l'infiltration. Ouais. Voilà, c'est, j'ai presque envie de dire, c'est lui qui remplace le mieux Vormer. Encore qu'on est allé chercher Onyedika, qui lui n'est pas un infiltreur comme pouvait l'être Vormer dans sa meilleure période. Mais pour moi, je pense que effectivement, Mats Rits manque cruellement à l'entrejeu brugeois. Mata, n'en parlons pas, parce qu'en défense, tu peux pas te passer d'un gars comme Mata quand tu joues en Champions League, ou quelqu'un qui a l'abattage qu'il a et la maturité, le calme qu'il arrive à garder. Voilà, on a vu toutes les limites, je dirais, de l'âge de deuil dans certains matchs. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Si là, malheureusement, il a pété un câble, mais je pense que vu son jeune âge, on n'a pas trop de soucis à se faire. Ça va devenir vraiment un excellent, voire très bon, voire excellentissime défenseur. Ouais. On a laissé partir Kosunu. Voilà, moi je pense pas, je me suis pas trop inquiet. Je veux dire, effectivement, les points défilent. On est à 8 points, si je ne m'abuse, de Genk, ou 9. Ça veut dire 4,5 aussi. On est à mi-championnat. On n'est même pas à mi-championnat à phase classique. Je pense que Genk, comme toutes les équipes, y compris comme Bruges et tous les autres plus grands, ils vont aussi perdre des points, à la limite près qu'eux ont une cadence un peu moins infernale. Puisque
ils n'ont pas la Coupe d'Europe, oui.
Mais par contre, d'un point de vue footballistique, chaque fois que moi je regarde Genk, pour être tout à fait honnête, et tu sais que j'aime bien l'objectivité, ça régale. Je veux dire, ce week-end, et on y reviendra peut-être, je ne sais pas toi Alex ou toi Sam.
Allons-y, si on peut enchaîner direct sur Genk.
Anderlecht peine et serein contre l'Union, c'était au bout de l'ennui. C'était pas digne d'une première division, je veux dire, c'était juste... c'était juste insupportable pour un fan de foot. Après, si on est supporter d'un club, c'est autrement.
Oui.
Mais on s'est copieusement ennuyé, pour rester poli. Hein.
Oui. Oui, donc Genk, on y vient, leader. 13 victoires depuis le début de la saison sur 15. 13 victoires, un nul, une défaite. Et un jeu qui tourne vraiment bien.
Oui. Il a réussi à faire prendre la mayonnaise très très rapidement. Finalement, il était deuxième entraîneur de l'année derrière Philippe Clément l'année passée, c'est ça, si je ne m'abuse ?
Felice Mazzu.
Et donc, c'est pas pour rien. En définitive, on voit que Wouter Franken, c'est quand même un excellent entraîneur, en tout cas en Belgique. Il faudrait voir. J'espère pour lui que, en même temps, il est dans un groupe quand même solide. Felice Mazzu, on pourra peut-être y revenir, malheureusement, parce que j'adore le bonhomme et l'homme qu'il est. Peut-être un peu juste pour les égos dans des grosses cylindrées. Peut-être que c'est un meneur d'homme, un peu comme Anne Van Azebroek finalement, qui s'est aussi cassé les dents, qui fait les beaux jours de la Gantoise, qui a fait les beaux jours de Courtrai et qui s'est cassé les dents à Anderlecht. Ça ne doit pas être évident, je pense. Il faudrait une fois avoir l'avis d'un véritable entraîneur qu'on pourrait avoir l'occasion d'inviter un jour ou l'autre dans notre émission. Parce que je pense que le coaching est totalement différent quand tu dois gérer des égos comme à Anderlecht ou comme à Courtrai. Je pense que c'est très différent.
Non, c'est tout à fait différent parce qu'à Anderlecht, on leur inculque presque depuis leur plus jeune âge quand ils sont footballeurs, qu'ils vont être au top, et quand ils sont au top, c'est très difficile pour certains entraîneurs de les driver, etc. Donc Vincent Kompany arrivait par sa carrière, par son charisme, par sa position et tout ça, mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Après, il y a la méthodologie aussi. Un Wouter Franken, un Anne Van Azebroek, il provoque un peu cette envie de gagner chez les joueurs. C'est des joueurs qui ont aussi envie de revanche. Tout le groupe de Genk a envie de revanche suite à l'année passée. Je ne connais pas la cuisine interne, mais force est de constater aussi, les 10 des 11 joueurs qui sont sur le terrain, ils étaient dans ce groupe l'année passée, ils étaient titulaires l'année passée. Donc il y a cette envie de revanche, et c'est ce que Wouter Franken avait fait à Malines quand il est arrivé en 2018 aussi. Il a quand même réussi à faire la montée, victoire en coupe, maintenir Malines en D1, jouer presque les play-offs 1, et faire à chaque fois des saisons très remarquables, avec pas forcément énormément de moyens non plus.
Mais justement, alors, je m'adresse à toi qui est quand même bien meilleur et plus fin analyste que moi je ne peux l'être, mais
ne te dévalorise pas.
Non, mais qu'est-ce qui, à tes yeux, Alex, ou toi, Sam, bien sûr, fait que Felice Mazzu, on peut pas, il n'est pas suspect de ne pas donner la grinta à ses joueurs quand on voit ce qu'il est parvenu à faire avec l'Union, avec un groupe comme à l'Union. Le groupe l'a suivi et ne l'a pas lâché, le vestiaire ne l'a pas lâché ni officieusement ni officiellement, puisque les joueurs se sont déchirés pour lui. Finalement, il n'a pas survécu à Anderlecht. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer la faillite quand même de son coaching à Anderlecht, selon toi?
Ben, on en a parlé la semaine dernière, en fait. Il y a plusieurs variables. Après, tout ce qui se passe dans les vestiaires, c'est très compliqué d'aller chercher. Mais pour moi, une des variables, sachant comment fonctionnait et comment travaillait Vincent Kompany juste avant lui, il poussait son groupe à bout. Il y avait un contrôle totalitaire presque sur tout ce qui se passait, que ce soit dans l'encadrement, dans le vestiaire, sur le terrain. Ça, c'était sa méthodologie qu'on respecte et qui a porté ses fruits. Après, j'avais envie de comparer et j'ai comparé aussi. C'est un peu comme quand tu es à l'école, tu as un prof très très strict. L'heure d'après, le prof il est plus cool, il te laisse faire un peu plus. Donc, tu as un peu plus de liberté, tu prends un peu plus de liberté. Sauf que dans un groupe avec beaucoup de jeunes joueurs, cette liberté elle est difficile à prendre. Ils n'ont pas cette maturité pour se dire eux-mêmes je vais m'entraîner, je vais repousser mes limites. Ils doivent être drivés d'une manière ou d'une autre. Et donc, il y a un peu de ça qui joue aussi. Et c'est un peu la faute à personne. Mais les résultats sont là, malheureusement.
Restons sur Anderlecht, justement. Anderlecht qui donc recevait Eupen, qui l'a emporté 4-2. Et un Anderlecht qui a concédé 2 buts sur des coups de pied arrêtés. C'est vraiment leur talon d'Achille depuis le début de la saison. Le deuxième notamment, où vous savez, parfois le tireur se dit je la tire fort au niveau de la petite du petit rectangle et puis on voit bien ce qui se passe. Peut-être que quelqu'un va la toucher, même un défenseur. Bon, là c'était même pas ça. Enfin, c'était une balle qui est passée devant. Je pense que le gardien a été gêné, Van Krombrugge, par un défenseur qui a voulu intercepter de la tête et donc il prend un but vraiment bête qui venait après un premier but de la tête marqué donc par les Eupénois. Autogol de Hout, c'est vrai.
Hout est fautif, enfin est fautif.
Oui, non, le ballon lui tombe un peu dessus, c'est vrai, tant pour moi.
Deuxième, je pense que Van Krombrugge pense qu'il va la taper en corner de la tête, puisqu'il plonge pour prendre la balle de la tête, pour la dégager en corner, et puis il passe à côté, Hout et Van Krombrugge voient la balle lui filer à côté, rentrer dans le but. C'est un but de gag, hein, c'est à mon avis, c'est vraiment pour le zapping, quoi, c'est clair, à ce niveau-là en tout cas.
Un autre, on a parlé un peu sans trop l'accabler de Boyata côté Bruges. Il y a un joueur qui, moi, m'a un petit peu déconcerté aussi. Surtout avec ce qui, on parle de lui pas mal récemment, c'est Zeno De Bast, qui est, on a l'impression de temps en temps qu'il manque de concentration de manière assez flagrante. Ou enfin, il fait des interventions qui sont pas tout à fait appropriées à certains moments. Il a été appelé chez les Diables. Ça a fait parler pas mal. Est-ce que, selon vous, on va pas parler de ce match-là en particulier, mais est-ce que vous pensez que Zeno De Bast c'est le présent des Diables Rouges, ou est-ce que c'est plutôt le futur et qu'il faut pas aller trop vite?
Vu son âge, pour moi, ça reste le futur. Ouais. Même si face au Pays de Galles, il a fait une bonne prestation, il ne faut pas le brûler trop vite non plus. Il a encore beaucoup de matchs à jouer, de maturité à prendre. Et après, on verra en fonction de la sélection de Martinez. D'après moi, il y a quand même des chances qu'il soit dans le groupe de 26. Mais après, on sait aussi que la défense des Diables sera un des points faibles, malheureusement, de cette Coupe du Monde. Et ça restera à voir. Est-ce qu'un jeune comme De Bast, sans trop d'expérience, peut justement apporter cette fougue et se donner à 400%, ou est-ce que justement on va opter pour des défenseurs avec plus de maturité, plus d'expérience?
La maturité,
mais Anderlecht, il fait clairement partie du présent.
Oui.
Et après, il va avoir des matchs sans aussi. Il y a un nouvel entraîneur aussi. Il y a d'autres accents. Il y a les habitudes qui changent en fait en 5 jours de temps. Et à Eupen, c'est exactement la même chose d'ailleurs, puisqu'ils ont aussi viré Bernstorff. Et pour tous les clubs dans lesquels ça se passe, et finalement, les dernières semaines, il y en a beaucoup. Donc,
justement,
il y a tous ces changements qui peuvent impacter.
Arrêtons-nous un instant, parce que je pense que l'année dernière aussi, on s'était fait la remarque de se dire qu'il y avait pas mal d'entraîneurs qui avaient sauté. Là, je crois qu'il y en a 8 depuis le début de la saison.
Oui.
8 entraîneurs qui ont été échangés.
Week-end, il y en a rien que ce week-end. Ouais. 2. Il y a Yves Van der Hagen qui a sauté après la défaite d'Ostende à Bruges. Et d'après ce que j'ai cru comprendre,
Jeune Chan aussi était...
Alors qu'il n'a même pas coaché l'équipe ce week-end. Mais voilà. Mais par contre, je voudrais un instant, si tu permets, Sam, revenir sur De Bast.
Mais absolument.
Je ne sais pas si Alex partagera mon avis. Alors, je le trouve pétri de talent, un excellent joueur. Je trouve juste par moment que pour son âge, il se voit trop beau. Et il a tendance à être trop facile. À la limite, je dirais, Silla a peut-être un petit peu le même défaut que lui, mais Silla a un bagage technique, selon moi, encore un petit peu plus haut. Ça ne veut pas dire qu'il le sera toujours. Mais je pense que De Bast a une espèce de suffisance dans son jeu par moment. Qui lui font péter un câble, et je trouve qu'à cet âge-là, c'est un petit peu dommage. Mais par contre, c'est aussi une preuve de caractère. Hein, mais voilà, il faudra, comme tu dis, Alex, qu'il mûrisse. Et il est temps. Il est temps s'il veut un avenir dans les Diables. Parce qu'on a pas, nous, on n'a pas le temps au niveau timing de garder comme ça des joueurs qui se voient plus beaux qu'ils ne sont. Il faut essayer d'optimiser son propre potentiel, mais ne pas le surévaluer non plus.
C'est vrai. On va rester sur Anderlecht. Un bon match finalement offensif, même si la qualité de la défense de Penn relativise un petit peu cette performance. C'est la moins bonne défense du championnat. J'ai noté quand même, bon, on va noter le doublé de Lior Raphaëlov avec un superbe coup franc notamment. Et puis le retour d'un jeune qu'on avait bien connu la saison passée et qui ne jouait que son deuxième match cette saison, c'est Anouar Aït-El-Hadj, qui a d'ailleurs réussi le petit exploit de marquer en D1B et en D1A le même week-end, ce qu'avait fait Julien Duranville il y a quelques semaines. Alors, en tout cas, ça fait plaisir de revoir Aït-El-Hadj parce que c'est un tout jeune joueur super talentueux. Il a mis une frappe magnifique dans la lucarne. Yari Verskarn était out, donc voilà, il est revenu dans le jeu. Sans doute c'est toujours ce qui se passe lorsqu'il y a un changement d'entraîneur aussi. Hein, on voit ça à Lyon. Avec Laurent Blanc qui a fait ressortir du placard des joueurs qui avaient été justement placardisés et d'autres qui ont plus tellement de, qui vont peut-être chercher un club à partir de janvier. C'est les aléas des changements d'entraîneurs. C'est quand même beaucoup d'entraîneurs et on se disait, tu me faisais la remarque, Alex, que c'est étonnant, étonnant qu'il n'ait pas attendu la coupure de la Coupe du Monde pour faire tous ces changements. En tout cas, voilà, il reste. Peut-être pas toi qui m'as dit ça.
Mais c'est étonnant, oui et non. Parce que finalement, il faut un effet psychologique, il faut changer quelque chose dans certains clubs. Même s'il y a après une défaite face à l'Union et face au club de Bruges,
ouais,
c'est quand même pas inattendu non plus pour Serein et pour Ostende. Après, la situation est différente. Ostende, malheureusement, Yves Van der Hagen, ça se répète chaque saison. Il commence dans un club, il se fait virer en novembre, il retrouve un autre club en mars et c'est reparti. Et malheureusement, ici, c'est la deuxième fois que Talhammer succède. Donc, ce n'est pas toujours très cool. On se souvient un peu de l'épisode Lekens-Peters à Westerlo il y a une dizaine d'années. Mais à Serein, j'ai du mal à comprendre qu'on mette José Jeunechan tout de suite à la rue, car je trouve finalement, avec l'équipe qu'il a, il a presque fait des miracles pour déjà prendre le nombre de points qu'il a.
Ouais.
Quand tu te sépares d'un Miko Tadze et deux, trois autres joueurs qui étaient bons, je pense à Diallo aussi, c'est très compliqué. Donc,
ouais,
pour moi, c'est déjà au-dessus des espérances. Mais après, il y a un choc psychologique, grappiller 4 sur 6 comme ça, et voir pendant la Coupe du Monde, justement, est-ce qu'on prend un autre entraîneur, est-ce qu'il y a encore moyen de faire quelque chose après, pendant la trêve, côté joueur. Je pense que les dirigeants ou le CEO s'achètent du temps en faisant ça, en espérant un choc psychologique pendant 3 semaines, en se disant ça ne sait pas être pire, entre guillemets, et puis on verra. Donc j'ai l'impression qu'on est un peu dans ce mood-là, dans cet effet de mode-là, aussi pour l'instant. Voilà.
Si je peux me permettre, je ne sais pas ce que tu en penses, ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que plutôt que de perdre de l'argent, peut-être à engager un entraîneur, Serein ferait bien d'investir dans un terrain, parce qu'ils ont des joueurs quand même qui, quand tu les prends individuellement, ils ont quand même une certaine qualité technique. Ce sont des gabarits quand même et des joueurs qui sont capables de jouer techniquement à un niveau bien supérieur.
Et
j'ai pas l'impression qu'il y aura moyen de voir un beau match de foot au Perret cette saison. À part revenir au football anglais des années.
C'est ça, voilà.
avec des longs ballons qui survolent tout l'entrejeu et puis football ou rat, pour voir du beau foot au Pérez, c'est impossible, alors qu'il suffit de mettre une pelouse un peu sympa. Ils ont des joueurs pour, la preuve en est, c'est que saison après saison, je pense pas me tromper beaucoup en disant que Seraing a le plus de points à l'extérieur qu'à la maison,
c'est pas un bon signe.
J'ai l'impression que c'est quand même le moins coûteux dans une équipe de mettre une pelouse un petit peu de ce nom, quoi. C'est...
On parle quand même de 300-400 000 euros, hein, Didier.
Oui, ok, mais si tu as une équipe qui vaut X millions d'euros avec des joueurs qui sont des manieurs de ballon et que tu leur donnes un champ de patates pour aller montrer leur qualité, comment tu veux, d'une part, qu'ils prennent de la valeur pour si tu veux les revendre, et d'autre
surtout
part...
Surtout qu'ils fassent des résultats.
Voilà, et produire du beau football qui fasse que les gens dépensent 20 euros pour venir te voir. Moi, j'étais surpris d'apprendre que les gens de Seraing, les supporters étaient furaxes parce qu'ils trouvaient que 20 euros, c'était trop cher pour un match de foot. Moi, alors, sans, bien sûr, qu'il y a toujours, on trouve toujours plus riche et plus pauvre que soi, je trouve pas que pour un spectacle de 2 heures, 20 euros soit quelque chose d'exagéré, mais à la limite, en ayant vu le match hier.
Voilà, ça fait, tu te dis que oui.
20 euros pour voir ça, franchement, waouh! C'est
19 de trop.
Les joueurs ne sont pas les seuls responsables, vraiment.
Mais oui, non, c'est pas. Il n'y a pas une structure très évidente non plus du côté de Seraing. Le terrain, on sait tous, il est quand même. Il est sur une colline, il est haut. Il y a un dénivelé aussi entre le but de gauche et le but de droite. C'est un peu renfermé. Je pense que c'est très compliqué d'avoir un bon terrain là-bas. Mais il ne faut pas oublier, le club de Seraing, c'est le matricule de Boussudour qui a été racheté il y a quelques années, qui sont montés D3, D2, jusqu'en D1 finalement en 2 ans de temps avec l'Union. Mmh. Et même en allant à Seraing il y a 3 ans, je peux t'assurer, le terrain, c'était encore pire que maintenant. Mais je pense que ça leur décharge. Ce n'est pas facile d'avoir un terrain bien entretenu et de qualité opéré. Et n'oublions pas en plus, leurs joueurs, même s'ils valent quelques millions d'euros, ils appartiennent au FC Metz.
D'accord, ok. J'ai la réponse à la question, mais tu es d'accord avec moi sur le constat que c'est vraiment indigne d'une division 1, quoi.
Ah oui, on est tout à fait d'accord. Mais il y a d'autres stades en Belgique où c'est la même chose et tu t'enfonces quand tu es sur ce terrain. Mais voilà, je ne suis pas étonné. Et finalement, ça fait un petit peu. C'est un peu dans les valeurs du club. On se souvient dans les années 90 quand ils étaient en D1, comment c'était là-bas. Enfin, surtout toi, Didier.
Ouais.
Le magnifique maillot et logo qu'ils avaient. Mais voilà, c'était un peu leur marque de fabrique d'avoir ce terrain boueux où toutes les grosses équipes ou même toutes les équipes se prenaient les pieds dans le tapis. Donc.
Ouais, mais alors c'est vrai, pour rejoindre ce que dit Didier, ça c'est valable et c'est une stratégie comme une autre d'avoir un terrain très difficile pour accueillir les gros. Mais lorsque ton équipe est technique, tu te tires une balle
dans
le pied.
C'est ça le problème, voilà. Effectivement. Ouais. Mais
c'est ça que j'ai trouvé. Si demain, ils jouent comme le Celtic, tu vois ce que je veux dire.
Oui, à l'ancienne.
Alors, il n'y a pas de souci. Alors, effectivement, c'est les visiteurs qui doivent s'adapter. Mais apparemment, ce sont, comme tu dis, Sam, ce sont les premières victimes de leur propre terrain, quoi.
Oui. Ce sera un sujet de réflexion pour le nouvel entraîneur aussi. Je vous propose qu'on fasse un petit tour par le Standard quand même.
Quand même,
le Standard 5e qui enchaîne les bonnes performances. Une victoire 0-3 sur la pelouse de Zulte Waregem.
La question qu'on se pose, c'est pénalty ou pas pénalty ?
Pénalty ou pas pénalty ?
Qu'en pense Didier ?
Je t'avoue, honnêtement, je vais avouer mon humble, mais j'aime bien dire les choses comme elles sont, je n'ai pas du tout vu le match. Mais je constate que le Standard revient en force, que comme d'habitude, dès qu'il gagne un match, il se voit champion d'Europe. Mais la mayonnaise a l'air de commencer à prendre. Il faudra voir dans des gros, gros matchs. Alors, contre Anderlecht ou contre Bruges, c'est toujours très délicat parce qu'ils jouent beaucoup à la carte. Il faudra les voir contre des équipes un peu plus modestes, je dirais, sur le papier en tout cas. Zulte, jusqu'à présent, est une équipe très joueuse, donc j'ai été très étonné de voir le 0-3. Après, c'était dans la douleur. Hein. C'est en 12 minutes, je pense, que ça a été plié, mais voilà, c'était pas. Le score ne reflète probablement pas la physionomie du match.
Sans doute pas, oui. Mais c'est vrai que pour un club comme ça qui connaît de telles difficultés depuis quelques temps, une victoire même immérité fait du bien. Et puis surtout, oui, ils sont vraiment dans une dynamique, une vraie belle dynamique qui les place à la cinquième place au classement. On ne s'attendait pas, avec le début de saison notamment, qu'ils ont eu à ce qu'ils soient... Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient là aussitôt dans la saison. Enfin, vous...
On a tous fait le même constat. Par contre, je pense que Zult a dû être démobilisé parce que j'ai vu une petite balade de Raskin là. Alors, on connaît les qualités de Raskin aussi, hein. Mais quand il a passé en revue toute la défense sur 3 mètres carrés, j'ai l'impression que les mecs de Zult étaient un peu démobilisés pour le coup.
C'est possible, ouais. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez quelque chose à ajouter sur la Pro League pour ce soir? Non. Non.
Non, à part la victoire de Charleroi qui est quand même...
On a parlé de la défaite de l'Antwerp, mais effectivement, c'est aussi une victoire pour Charleroi, qui a aussi donc perdu son entraîneur. On sait qu'ils sont à la recherche d'un remplaçant. On sait qu'il y a les jeux de chaises musicales qui va se produire, et on verra bien d'ici quelques semaines qui atterrit où. Au classement.
À Charleroi, enfin les médias parlent de Mazou à Charleroi, ouais. Ce serait rigolo.
C'est vrai, ce serait une boucle qui se bouclerait. Au classement, donc Genk possède 40 points, soit 7 d'avance sur l'Antwerp. Troisième, le club de Bruges à 8 points, tout comme l'Union Saint-Gilloise. Là, il y a un petit trou qui a été fait avec le cinquième qui est le Standard qui compte 25 points. La Gantoise 24, Westerlo toujours là 22 points et OHL également 22 points à noter. Kanderlecht est à 19. Oui Didier. Mais
je note quand même aussi une chose, c'est assez curieux, c'est parce que je t'écoutais donner les points. Je pense qu'il y a à peine 3 semaines d'ici, voire un mois maximum, Bruges et l'Union étaient à 8 points de l'Antwerp. Hein, donc ça va très très vite ce champ.
Ouais. L'Antwerp, ils sont à 3 défaites en 5 matchs, donc ils ont mis 6 points sur 15 possibles, là où l'Union en a pris 13 et le club de Bruges 10, donc c'est vrai que ça, c'est compliqué.
Oui, ça va être un championnat très serré jusqu'au bout.
Ouais.
Et la vraie question, c'est le Standard sera-t-il dans le top 4?
Oui, ils ont qu'à attendre que l'Antwerp dégringole et puis ça devrait rentrer. Non, j'exagère un petit peu. Écoutez, merci pour cette partie Jupiler Pro League. Comme promis, je vous propose maintenant qu'on passe à notre instant envers du décor business, la minute, peut-être même plus qu'une minute, Sportimize avec toi Alex. Et ne vous inquiétez pas pour les droits d'auteur, ça n'est pas Pink Floyd, ça n'est pas la caisse enregistreuse de l'ouverture de Money, mais c'est tout de même une caisse enregistreuse et ça va nous permettre de parler donc pas du terrain, mais de ce qui se passe ailleurs. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Alex ?
Quel beau jingle, Sam. Aujourd'hui, on va commencer par une question. Donc, on parle de statistiques de la semaine dernière. Donc, ouais. La dernière journée de championnat dans tous les pays ne compte plus, mais... Dans quel pays marque-t-on le plus de buts?
Dans quel pays?
Si Didier a une réponse, il peut la lancer.
On parle
en Europe.
En Europe, pas de...
On parle dans le top 10 européen.
Ok.
Donc, top 10 européen, le G5 qu'on connaît.
Ok, et on ajoute...
Espagne, Italie, France, Allemagne, Angleterre. On rajoute à ça la Belgique, l'Autriche, l'Écosse, le Portugal.
Et la Hollande.
Et la Hollande, effectivement.
Eh bien, je dirais... Dans quel championnat on marque le plus? Peut-être les Pays-Bas, Eredivisie.
J'aurais dit la même chose que toi, et j'hésitais entre cela et un championnat où on marque pas mal aussi pour cette saison-ci, c'est la Bundesliga pour moi, mais j'hésite entre les deux.
Voilà. Si tu nous dis que c'est l'Italie, alors là on va changer de on va se décomposer, on va se dire que plus rien ne va.
Eh ben non, c'est la Belgique.
C'est la Belgique. Wow.
C'est la Belgique avec 383 buts avant cette journée de championnat. Et la Belgique est donc leader du G10 européen en termes de buts, donc d'attractivité. Donc, notre Pro League est-elle devenue si attirante en une fois, ou les défenses sont-elles devenues si faibles? D'après toi, ça.
Écoute, moi, ce serait bizarre de dire que les défenses sont devenues plus faibles, parce qu'on a fait revenir des gros joueurs
Alors, ils sont un petit peu en deçà. Et au niveau offensif, il y a un manque de stabilité chez les attaquants belges, des clubs belges. Moi, je dirais quand même qu'il y a une belle. Les attaquants sont en grande forme. Donc, je subodore qu'il va nous parler d'expected goals, c'est ça hein ?
Non, pas. Mais je vais te parler de la conversion. Donc, okay. C'est-à-dire le nombre d'attaques et le nombre d'attaques qui finissent en but. Et c'est également la Belgique qui est première avec 12,5%. Donc, devant l'Allemagne, même devant la Première Ligue. Par contre, ce qui est assez frappant, c'est que la Belgique est septième au classement du nombre de tirs par match.
Ok.
Donc, c'est très prolifique. Il y a une action, avec va souvent au fond.
D'accord.
Moins de tirs.
Moins de tirs, mais plus de buts. Donc, ce sont effectivement des attaquants qui sont...
Par match, on tire en moyenne 24 fois au but en Belgique.
Okay.
Et ça se transforme donc rapidement dans un goal dans notre championnat. Quand et je vais rajouter à ça, finalement, qu'on est devant l'Angleterre, on est devant les Pays-Bas, on est devant la France aussi. Mais la France, on marque beaucoup de buts aussi, cette année, visiblement.
Ah oui.
Ça change aussi.
Oui, Didier. Allez.
J'ai deux questions pour Alex. La première, c'est quand tu dis tir au but, est-ce que tu comptes quand on pousse la balle dans le but vide après un centre en retrait, est-ce que ça compte comme un tir? Ou bien, parce que je constate que beaucoup d'équipes en Belgique, on dirait qu'ils veulent rentrer avec la balle dans le goal, toute l'équipe. Tu vois, il y a beaucoup de combinaisons dans les petits espaces. Je pense à Bruges, je pense à Anderlecht, encore que ce week-end, ils m'ont fait mentir tous les deux. Est-ce que ça compte comme des tirs, ça, ou comme... Comment c'est répertorié ?
Mais ce n'est pas moi qui ai réalisé l'enquête, donc c'est la Pro League qui a dévoilé ses stats la semaine dernière. Mais même, effectivement, quand tu fais une passe en retrait et qu'il y a une balle qui est censée aller vers le goal, même si c'est un tir complètement décroisé qui finit en touche, ça sera considéré comme un tir.
Oui, je pense que quand tu parles de tir, effectivement, il y a tout type de frappe ou pas de frappe, de tête, de puissance ou pas de puissance.
Je voulais poser la deuxième question, mais peut-être que c'est pas dans le sujet que tu évoques pour le moment. Mais est-ce que tu pourrais me mettre le décodeur pour l'expected goal? Je ne comprends rien à ce truc, mais rien.
Je pense qu'on va faire une émission spéciale à ce sujet.
On peut faire une émission spéciale.
Il y a ça, et alors aussi, quand tu vois une attaque, tu as le but vide, et on te dit que le mec, il a 13% de chance de marquer le but, alors que tu as l'impression que même moi, je le mettrais, quoi, tu vois.
C'est une sorte d'algorithme aussi, très très brièvement, qui va prendre en compte un tas de facteurs, que ce soit le positionnement de la défense, du gardien, de l'attaquant, la distance par rapport au but, et qu'est-ce qui se passe dans des circonstances similaires pour les mêmes attaques. Donc, c'est assez compliqué, je pense que ça mérite vraiment un sujet à part entière.
Mais c'est vrai que comme tu le disais de manière synthétique, c'est ça. On s'appuie sur les précédents en disant, par exemple, je vais vous donner un exemple idiot. Quand il y a eu, par exemple, je sais pas, 20 tirs qui ont été faits de l'angle du rectangle sur la gauche, par exemple, et sur ces 20 tirs qui ont été faits depuis le début du championnat, il y en a 4 qui sont rentrés. Donc, lorsqu'un attaquant se retrouvera dans cette position au match d'après, on saura que l'expected goals, la chance qu'il, le but anticipé, le but attendu à la suite d'une frappe prise de cet endroit-là, il représente un certain chiffre. Et donc,
En fait, si je te suis bien, c'est devenu une statistique, ce n'est plus une probabilité alors.
C'est une probabilité aussi parce que, enfin, dans le sens où on voit des équipes qui vont, à la fin du match, quand on regarde les expected goals, on voit qu'ils ont surperformé, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas dû marquer autant de buts parce qu'ils étaient en gros dans des positions et dans situations difficiles qui habituellement ne permettent pas de marquer autant de buts que ça. Et puis là, ils ont surperformé et donc ils ont marqué. Et inversement, une équipe qui a un expected goals très élevé et qui en marque pas beaucoup, on sait que dans ce cas-là, elle a sous-performé. Les attaquants auraient dû marquer des buts, plus de buts, puisqu'ils étaient dans des positions qui devraient conduire à ça.
Mais avant de conclure, ajoutons, ce n'est pas toujours représentatif, comme dit Didier. Tu vas parfois seul au goal et il y a un expected goal de 0,14 quand finalement la balle va terminer beaucoup plus au fond que cette probabilité-là. Ouais. Et maintenant, finalement, pour conclure, en 5 ans, l'attractivité donc de la Jupiler Pro League, point de vue but, point de vue spectacle, a quand même bien augmenté puisqu'on marquait 22 buts en moyenne par journée. Aujourd'hui, on a 27 buts par moyenne en journée.
C'est énorme.
Donc, il y a quand même en 5 ans, c'est 5 buts en plus, ça fait 1 par an. Wow. C'est effectivement 20%, mais donc, le spectacle, il est ici. Et j'espère que ça continue à se traduire dans le coefficient européen comme c'est cette saison, mais surtout que les équipes peuvent continuer ça dans et perdurer dans l'avenir.
Ouais, mais c'est vrai qu'il y a... Il y a des supers attaquants. On peut à chaque fois regretter qu'ils ne restent pas suffisamment longtemps ou qu'ils veuillent quitter le championnat un peu vite. Où il y a les prêts, hein, je pense à tous les prêts qui ont de Manchester City notamment, qui ont permis à certains clubs, à Anderlecht, à Bruges, d'avoir de très bons attaquants. Mais on voit qu'encore une fois, Judela, par exemple, c'est vraiment une trouvaille. J'ai entendu, je crois qu'il est pressenti peut-être pour aller à la Coupe du Monde, alors qu'il est quasiment inconnu dans son pays. Hein. Il y a eu une, je pense que depuis 2 mois, en Espagne, on s'est réveillé où on s'est. J'entendais un journaliste qui disait que les gens étaient furieux en Espagne en se disant mais comment est-ce qu'on peut laisser partir un type comme ça et comment ça se fait qu'il joue pas chez nous en Espagne. Donc on lui souhaite d'être au moins dans les 26, mais.
Ce qui serait magnifique pour le club de Bruges.
Ah ouais.
Et on en parlera plus tard, mais chaque joueur qui part à la Coupe du Monde, il y a une certaine dotation qui revient au club aussi. Donc, au plus de joueurs par club qui vont à la Coupe du Monde, au plus que le club s'enrichit pendant leur absence. Et au plus longtemps qu'ils durent leur aventure à la Coupe du Monde, au plus qu'ils touchent également.
Et ben,
ce sera un chiffre pour une des prochaines éditions.
Exactement. Et ben, merci pour cette minute, grosse minute Sportimage. Allez, maintenant, il nous reste un petit quart d'heure et bien, je vous propose qu'on passe à l'Europe. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que la Coupe d'Europe ? Bon, il y a plein de choses, mais c'est vrai que la Ligue des Champions, c'est quand même bien chouette. On l'a dit, c'est la 6e et dernière journée dans toutes les Coupes d'Europe, bien sûr. On s'arrêtera maintenant, on reprendra en février. On va revenir d'ailleurs, parce qu'il y a... tout le monde n'est peut-être pas au courant, mais les choses sont pas aussi simples que avec les reversements, les équipes qui sont reversées. Les équipes qui sont reversées de Ligue des Champions en Ligue Europa ne sont pas qualifiées pour les 8e de finale, mais elles sont qualifiées pour un barrage, une sorte de 16e de finale, un barrage qui les opposera au 2e de groupe de Ligue Europa. Donc si vous avez fait un bon parcours en Ligue Europa, que vous avez le malheur de finir deuxième sur une différence de but par exemple, et là vous avez une chance de tomber sur Barcelone ou l'Atlético Madrid en barrage.
Ce n'est pas mal comme match non plus d'ailleurs.
C'est vrai, mais pas pour espérer une qualification peut-être. On va commencer par le groupe H, si vous voulez, c'est le groupe, même si vous voulez pas, c'est le groupe du Maccabi Haïfa. Le Maccabi Haïfa dont on a suivi le parcours depuis le début de cette campagne européenne. Les données sont assez simples, ils sont à égalité de points avec la Juve, mais la Juve est devant grâce à la différence de but. Le Maccabi Haïfa doit donc faire mieux que la Juventus. La Juve reçoit le PSG. Le Maccabi Haïfa reçoit Benfica. L'avantage, sans doute, en tout cas, ce sur quoi les Israéliens peuvent s'appuyer, c'est sur le fait que le Paris Saint-Germain va jouer le jeu à fond, puisqu'il a encore quelque chose à gagner, à savoir la première place. C'est vrai que parfois, on peut se dire que c'est pas juste. Quand une des équipes n'a plus rien à gagner, ça fausse un petit peu la confrontation. Là, ça n'est pas le cas. Benfica et le PSG vont être premier et deuxième, mais on ne sait pas encore dans quel ordre. Et le Maccabi Haïfa et la Juve se battent pour la troisième place, donc qualificative pour la Ligue Europa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sur ce qu'on a vu du Maccabi Haïfa depuis le début de la saison, et notamment, et je dirais même surtout, à domicile, avec ce public incandescent et qui pousse tout le temps, ils ne sont pas dans une si mauvaise position avant ce dernier match. En tout cas, moi, je préférerais être au Maccabi Haïfa plutôt que d'être la Juve et de devoir affronter le Paris Saint-Germain dans une dernière journée.
Attention, Benfica est invaincu cette saison.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Ce n'est pas facile du tout, mais ce serait une prestation exceptionnelle du Maccabi de non seulement gagner à domicile contre Benfica, mais surtout de dépasser la Juve et d'éliminer la Juve.
Oui, puisque le match nul leur permettrait aussi de se qualifier en cas de défaite de la Juve. Mais c'est vrai que c'est une super campagne européenne qu'ils ont faite jusque-là, et ce serait effectivement chouette que ça se poursuive. Ça se poursuivra pas en Ligue des Champions, puisque les deux premières places peuvent plus être atteintes, mais ce serait en Ligue Europa, donc. Et comme je le disais, ce serait contre un deuxième de groupe. Voilà, ils ont leur chance. Ils ont fait une belle, quatre beaux matchs. Même le dernier match contre le Paris Saint-Germain était très compliqué, mais ils ont embêté Benfica. Ils avaient failli ouvrir le score en tout début de deuxième période. Face à la Juve, pareil, ils avaient été à l'extérieur, ils ont perdu 1-3, mais ils avaient failli égaliser à 2-2. Donc bon, ils ont une chance de continuer, de poursuivre leur aventure. Le club de Bruges, on va parler des autres clubs qui nous intéressent. Le club de Bruges est donc en tête devant Porto.
Ça va être compliqué parce que autant on pouvait se satisfaire d'un match nul la semaine passée contre Porto pour être sûr d'être premier du groupe, autant maintenant il faut battre Leverkusen, ou en tout cas que Porto perde.
Oui, ils sont un peu dans
Madrid.
C'est ça. Il faut qu'ils fassent un meilleur résultat que Porto. Ouais.
Je pense. À l'inverse, il faut que Porto fasse un meilleur résultat.
Oui, pardon. Oui.
J'ai fort décimé pour aller à Leverkusen demain, justement. Donc, on ne parle toujours pas de Mata, il y a plusieurs suspendus, ça ne va pas être simple. Mais on ne doit pas faire la fine bouche non plus. Je pense que c'est une prestation exceptionnelle du club de Bruges d'être qualifié pour le prochain tour dans un groupe pareil.
Mais l'appétit vient en mangeant, et finalement, c'est vrai qu'on n'est pas loin du Graal, et pouvoir entrevoir un huitième avec un soupçon de chance de pouvoir encore franchir une étape, ce serait génial. C'est mieux de rencontrer un second groupe qu'un premier groupe, d'une part, parce que si la logique est respectée, c'est pas la meilleure équipe qu'on rencontre d'un groupe. Sauf si Bruges finit deuxième de son groupe, et puis aussi surtout l'avantage est de pouvoir, enfin selon moi c'est un avantage, c'est toujours discutable, de pouvoir jouer le match retour à la maison. Ça c'est toujours quand même.
Pense que ça l'était et ça l'est d'autant plus maintenant qu'il y a plus de but à l'extérieur, parce que le but à l'extérieur, enfin quand je dis si vous arriviez aux prolongations, l'équipe qui était visiteuse avait à ce moment-là un gros avantage, puisqu'un seul but lui permettait de creuser l'écart de manière importante. Donc oui, c'est vrai que finir premier du groupe, ce sera un objectif fort pour Bruges.
Ouais. Alex. Mais surtout, je ne sais pas à quelle équipe tu fais référence qui peut être deuxième et abordable pour Bruges.
Franchement,
je ne vois aucune équipe qui sera deuxième de son groupe de Champions League où on se dit, tiens, celle-là, elle est abordable. Au contraire, je pense que toutes les équipes qui peuvent tirer Bruges seront très contentes de tirer Bruges.
Alors moi, je dirais peut-être le groupe D, celui de l'OM.
C'est pas facile.
Non, mais c'est sûr, c'est pas facile, mais c'est vrai que si c'est l'Eintracht Francfort qui peut être deuxième...
C'est un chouette déplacement, mais c'est une équipe très compliquée à jouer. Et j'ai déjà lu aussi cette semaine, l'Inter de Milan serait facile. Moi, je suis pas d'accord. Non. Bruges sera clairement le petit pousset de la phase finale knock-out de cette Champions League. C'est magnifique d'y être. Évidemment, l'appétit vient en mangeant, mais Bruges devra faire attention de ne pas bâcler son championnat et ne pas se focaliser uniquement sur ces deux matchs ou sur ce match, parce qu'après un match ça peut déjà être terminé. Si tu prends un 4-0 comme à Porto, et d'ailleurs ils l'ont prouvé durant cette première campagne, tu gagnes 0-4 à Porto, tu t'en prends 4 au retour à domicile, donc même un 0-4 n'est pas une garantie de succès absolu avec cette équipe. Donc il ne faudra surtout pas bâcler le championnat, espérer une très belle affiche. Je pense que tous les supporters brugeois seront d'accord, un petit Liverpool ce serait exceptionnel.
Personnellement, je préfère éviter, si c'était possible, le PSG ou le Bayern à ce stade, quoi.
Toi, tu préfères le RB Leipzig ou quelque chose comme ça, par exemple?
Voilà.
De toute façon, comme il y a plus à ce stade-là, il y aura pas comme d'oiseau pour le chat.
C'est clair, mais je veux dire, sur papier, il y a des
comment dirais-je, il y a des adversaires.
équilibrés, qui paraissent plus équilibrés, ou moins déséquilibrés plutôt.
Oui, alors, je comprends, je préférerais effectivement affronter le Milan AC que le Bayern Munich par exemple, mais voilà.
D'accord. On est d'accord. Mais, quelle des choses, oui. Pour une équipe comme Bruges, à la limite, on leur donnait pas l'ombre d'une chance non plus. Tu as quand même l'Atlético, Porto, Leverkusen dans une moindre mesure, mais Atlético et Porto, c'était quand même ces deux grands d'Europe, qu'on le veuille ou non. Hein, c'est dans leur championnat respectif. En tout cas, au Portugal, Porto, c'est quand même des
ouais, belles. C'est du beau jeu en plus, ça, Porto. Bon.
L'Atlético qui est toujours dans le top 4 depuis, je sais pas, une dizaine d'années maintenant facile en Espagne, avec quand même un championnat relevé, hein, parce qu'il n'y a pas que 4 équipes comme dans certains championnats en Espagne. Hein. Mmh. Il y a quand même des belles cylindrées. Donc voilà, ils sont là où ils en sont. Alors même si on peut dire qu'ils ont eu un Mignolet qui leur a gagné des points, ça c'est une évidence, mais tu prends pas 10 points sur 15 si tu sais pas jouer au football. Quoi.
Ça, non, on est bien d'accord. Il nous reste 5 minutes, alors je vous propose qu'on passe à la Ligue Europa, mais ça va être très vite, très rapide la Ligue Europa, puisqu'il n'y a qu'un seul club belge qui est concerné, et puis il est d'ores et déjà assuré de finir premier, c'est l'Union Saint-Gilloise qui va recevoir l'Union Berlin pour le dernier match à Louvain.
Voilà. Un match de gala.
Un match de gala, comme on dit. Et ben formidable. Les deux unions vont s'unir pour faire un beau match.
Il ne faut pas oublier que pour le moment, l'Union Berlin domine la Bundesliga de la tête et des épaules, hein, parce qu'ils ont quand même le Bayern derrière eux. Ils ont le Dortmund. C'est pas. Enfin, il faut le faire d'être après 15 journées. Je pense qu'ils sont aussi à la 15e ou à la 14e journée là-bas. Être premier en Bundesliga, c'est quand même une lettre de noblesse solide. Hein.
Oui. On passe à la Ligue, à la C4, voilà, la Ligue Europa, la conférence. Ils n'ont pas voulu renuméroter les coupes d'Europe. Ils se sont dit la C2, on va elle n'existe plus, mais c'est pas grave. On passe de C1 à C3 et puis c'est pas grave.
C'est Citroën qui les sponsorise à mon avis.
C'est ça. Deux clubs belges encore en course, un club israélien rapidement, l'Apoel Beersheva est dans le groupe de Villarreal, Lech Poznan et Austria Vienne. Beersheva est actuellement troisième avec 4 points et devra espérer dépasser donc Poznan. Ils reçoivent l'Austria de Vienne qui est deuxième et quatrième avec 2 points et d'ores et déjà éliminé, tandis que Poznan recevra Villarreal qui avec 13 points est déjà qualifié. À noter que Beersheva n'a pas gagné un seul match de la compétition, mais il n'a perdu qu'une fois, 4 nuls et une défaite. Ce serait pourquoi pas. Voilà. Ici, il faudrait qu'il y ait une conjonction de résultats. Une victoire d'un côté pour Beersheva et une défaite de Poznan face à Villarreal. Passons maintenant au club belge et Anderlecht notamment. Anderlecht dans le groupe B occupe également la troisième place à un point derrière son adversaire de jeudi, son adversaire direct pour la qualification, Silkeborg. Les Mauves vont donc se déplacer en Suède et devront gagner pour pouvoir espérer terminer deuxième et donc poursuivre l'aventure européenne.
Bah en fait, soyons francs, il y a un double duel belgo-scandinave cette semaine parce que Gand affrontera Molde pour une place au prochain tour en Conference League, tout comme Anderlecht. Mais dans les groupes dans lesquels nos équipes belges sont tombées, c'est scandaleux d'attendre la dernière journée pour avoir un match à élimination directe presque face à ce type d'équipe.
Ouais.
C'est presque n'importe quoi dans un groupe avec Steaua Bucarest. West Ham, c'est une autre paire de manches, mais Silkeborg, merci.
Et puis le groupe F,
c'est encore pire. Djurgården,
Djurgården, Molde et Shamrock. Wow.
C'est même pas des destinations EasyJet pour l'hiver. C'est scandaleux de ne pas être motivé et de ne pas savoir engranger des points face à ce type d'équipe. Quand tu vois ce que Bruges et l'Union font de l'autre côté, c'est eux qui sauvent la Belgique cette saison.
Ouais.
Contre toute attente d'ailleurs aussi.
C'est vrai. Et il y a un club qui s'appelle Balkany en Ligue Europa Conférence. Et ce qui est bien, c'est qu'on voyage avec cette Ligue Europa Conférence dans des villes qu'on ne connaissait pas, même parfois même des pays, quasiment. Mais bon, c'est bien, ça permet d'avoir.
Mais il faut surtout espérer que et Anderlecht et la Gantoise puissent prendre les 3 points, se qualifier, parce que la Belgique, à ce moment-là, elle est actuellement 8e au classement, au coefficient, pardon, UEFA, avec quelques points en plus. Elle pourrait se rapprocher tout doucement des Pays-Bas qui ont quand même 20 points d'avance.
Et ben c'est tout le mal qu'on souhaite aux Mauves et à la Gantoise jeudi. Mes chers amis, il est 20h59, c'est l'heure de nous quitter. Merci beaucoup Alex, merci beaucoup Didier d'avoir participé à cette émission. J'espère que nos chers auditeurs ont apprécié l'émission et qu'ils auront appris des choses. On se retrouve la semaine prochaine. Et ben, bonne soirée Didier, bonne soirée Alex.
Bonne soirée à tous.
Bonne soirée.
Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Fou, vous êtes un salaud.